Super. Eh ben, écoutez, je vous propose de commencer ce petit moment notre fameux thème, sur la question qui nous anime, si Dieu existe, comment être en relation avec lui. Donc, on va réfléchir à ça, ce que la foi chrétienne, elle nous propose sur ce sujet. Et je crois que c'est important d'avoir une bonne spiritualité parce que nos croyances, elles nous aident à mieux vivre. Et vraiment cette idée de bien vivre. Et voilà, on va réfléchir en quoi le Dieu qui se révèle dans la Bible diffère des autres religions pour ce qui est de la relation avec lui. Et puis à la fin, on aura un temps de discussion, comme hier, des questions où chacun pourra s'exprimer librement sur ses croyances. Alors, on pourrait parler de plein de choses aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est vaste. Hier, on a déjà abordé plein de trucs. Il y a plein de livres qui parlent de ça. Et c'est un sujet très important parce que si on veut connaître quelqu'un, il faut forcément avoir une relation avec lui. C'est obligé. Et c'est le même principe avec Dieu, en fait. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui est central selon la Bible pour avoir une bonne relation avec Dieu? Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé quelque chose. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Parce que j'ai bien cherché. Et en fait, toute la relation qu'on peut avoir avec Dieu, eh ben, elle dépend de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment hyper important. Et on va découvrir ça au travers d'un passage de la Bible. Et ouais, je sais que là, ça vous a teasé, vous vous demandez, c'est quoi ce truc, hein? C'est le truc central. Sans ça, il n'y a pas de relation avec Dieu. Vous avez envie de savoir, ça va venir, pas tout de suite, il faut être un peu patient. Mais je peux vous teaser un petit peu le truc. Je peux vous donner un petit indice parce que je suis un gars sympa quand même. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Mais voilà mon indice. Voilà, c'est incroyable. Des super-héros. Ça, c'est cool, hein. Des super-héros, c'est un sacré indice. Ben voilà ce qu'il ne faut absolument pas être si vous voulez avoir une bonne relation avec Dieu. Voilà. C'est dommage, hein, parce que franchement, la cape, le gars est plutôt balèze et tout. Ça donne envie. Moi, j'aime bien les super-héros. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'il faut qu'on soit pour avoir une relation avec Dieu. Donc vous pouvez ranger un peu les costumes. Gary, je sais que tu viens toujours avec ton petit costume. Pour aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible pour toi, désolé. Et du coup, voilà, ce qu'il ne faut pas être, on verra, on en reparlera après, de ce petit truc. Et le passage qu'on va voir aujourd'hui, il se trouve dans Deux Rois, le livre Deux Rois, au chapitre 5. Et il y a un truc avec la Bible, c'est que quand on veut l'étudier, il faut bien comprendre le contexte, pour éviter de faire des bêtises d'interprétation. Donc, je vous propose un petit contexte rapide de ce livre des rois, pour mieux comprendre en fait tout ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Le livre des rois, il se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un livre qui est très vieux, qui aurait été écrit au 6e siècle avant Jésus. Et il est coupé en deux parties, un roi et deux rois, comme on voit, mais c'est un seul livre. C'est un peu comme le tome 1 et le tome 2. Voilà. Et pour résumer le livre des rois, hein, on pourrait simplement dire que c'est l'histoire des rois d'Israël qui ont suivi le roi David. On en parlait hier du roi David. Et malheureusement, en fait, dans ce livre, beaucoup de ces rois, ils ont foiré. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont conduit le peuple à des erreurs. Ils ont cherché le pouvoir, la richesse, plutôt que Dieu et les bonnes choses. Et on va voir ça tout au long du livre, en fait, hein. Et puis le peuple aussi, dans ce livre, il a aussi malheureusement foiré. Tout au long, ils vont aller vers d'autres divinités, ils vont s'allier avec d'autres peuples, d'autres mœurs, et ils vont s'éloigner des principes de Dieu. Et ça va leur causer un énorme préjudice. Ça, c'est la fin du livre, hein, de Deux Rois. On voit en fait que Jérusalem va être détruite, ils vont être emmenés à Babylone, captifs. Donc c'est une fin qui est catastrophique, hein, et Dieu il va les rappeler sévèrement à ce moment-là. C'est vraiment la fin, c'est la punition qui tombe pour leur faire comprendre en fait, leur faire comprendre leurs erreurs. Mais en même temps, dans ce livre, il y a des personnes qui vont se lever, des prophètes, des rois qui vont essayer de bien faire les choses. Donc c'est un livre passionnant, il y a des miracles, c'est vraiment rythmé. Moi j'aime beaucoup ces deux livres. On ne s'ennuie pas en le lisant, c'est assez simple finalement. Voilà un petit résumé, mais nous en fait on va pas s'intéresser un roi, on va pas s'intéresser à un prophète, on va s'intéresser à un homme qui est un ennemi de la nation d'Israël. Donc c'est assez original en fait, on va rentrer dans le vif du sujet, voilà, en regardant qui c'est ce personnage et comment est-ce qu'il répond à notre question. Parce qu'on va toujours être là-dessus, comment être en relation avec Dieu. Donc le passage il se trouve dans le livre 2 des rois, au chapitre 5, et je vous lis le premier verset, vous allez voir c'est une super histoire, moi je l'aime trop. Oui. Donc Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc voilà un peu le CV hein, de Naaman. On a là, hein, c'est un personnage, c'est celui sur lequel on va se poser aujourd'hui. C'est le chef de l'armée du roi de Syrie, un grand guerrier, fort, vaillant. Il est même dit que Dieu il a donné une victoire à la Syrie par lui. Ce qui est vraiment dingue parce que les Syriens n'étaient pas alliés avec Dieu. En tout cas, pas le Dieu de la Bible. Ils avaient d'autres divinités. Mais on voit que Dieu va quand même utiliser cette personne. Puis on voit qu'il jouissait de l'estime, de la faveur de son roi. Et ça, c'est pas rien, je pense. En fait, Naaman était un homme très puissant. Peut-être même l'un des plus puissants de Syrie. Là, on parle comme du bras droit du roi. Et puis, il devait être sûrement très riche, je pense. Donc, on a là un personnage qui est très haut placé, puissant, riche, le genre de gars qui a bien réussi ce qu'il a entrepris, hein, je pense. Il ne doit pas avoir beaucoup de limites, je me suis dit, dans sa vie. Et jusque-là, ça a l'air d'être plutôt bien pour lui, il a l'air de plutôt être heureux. Mais le verset il se termine par un truc qui est catastrophique, il est lépreux. Donc la lèpre aujourd'hui pour nous ça nous dit pas grand-chose et heureusement mais en gros Naaman il est condamné hein, à vivre avec une maladie qui va le ronger et l'amener jusqu'à sûrement la mort donc c'est vraiment hard et vu que la lèpre elle est contagieuse et ben en plus il allait sûrement être banni donc ce gars qui est un peu un boss en fait il va se retrouver tout seul et ce verset il est un peu dramatique donc cette phrase elle est très lourde de conséquences aussi lourde que si on disait à quelqu'un aujourd'hui vous voyez t'as un cancer incurable, c'est quelque chose, c'est un poids énorme. C'est la fin, quoi. Et le premier parallèle qu'on peut faire avec cette histoire et nous, en fait, c'est que le confort et la richesse, la réussite, c'est des choses qu'on cherche tous de manière générale, ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Et on cherche pas tous à être des héros de guerre, hein, heureusement, mais être reconnu, ça flatte un peu notre ego. Comme ça devait flatter Naaman, il devait être content de son statut professionnel. Et donc on a des points communs avec Naaman, c'est que tous on cherche à avoir une position qui soit correcte. Mais il y a un truc qui nous différencie, c'est que Naaman, il savait qu'il avait un sérieux problème. Il savait qu'il était gravement malade, condamné, et donc ça va le pousser, on va avoir à chercher une solution. Et la Bible, elle nous dit en fait que nous aussi, on est malade. Alors pas malade du corps comme Naaman, heureusement, mais malade du cœur. Du cœur. Elle dit que chaque être humain est comme rongé dans son cœur par le mal, les ténèbres, on peut appeler ça un peu comme on veut. La Bible, elle appelle ça le péché. Notre cœur, il a un vrai problème. Et il n'y a qu'à voir le monde, hein, rapidement, pour voir, voilà, c'est très simple pour s'en rendre compte, il y a un petit problème dans le monde. Les hommes, l'être humain agit tellement, tellement bizarrement, il ne tire aucune leçon de son passé. Mais la différence en fait avec le personnage de notre histoire, c'est que nous, on ne se rend pas compte qu'on est malade. C'est ça le problème. On a l'impression que tout va bien. Vous voyez, c'est vrai, hein? Que tout arrive à cause des autres. On est tout le temps en train de dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ouais, c'est de la faute de lui, c'est mon boss, c'est le président, c'est machin, c'est pas ma faute et tout. Et c'est là que réside un peu notre problème, je pense. On ne se rend pas compte que notre cœur est malade. Souvent, on ne se pose même pas la question. C'est plus simple de dire, voilà, c'est les autres, c'est les autres, c'est pas moi. Et ça, c'est un problème. Alors, normalement, lui, pour le coup, il est au courant, parce que ça se voit. Alors, il va chercher une solution. On voit qu'il est conscient de tout ça. Il va continuer. Et voilà ce qu'on va voir tout de suite après, hein, ce verset qui dit qu'il était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et donc là, on a une nouvelle personne qui rentre dans notre histoire, c'est une petite fille, elle est prisonnière des Syriens, et elle vient d'Israël. Et ce qui est dingue, hein, moi je trouve là, c'est que cette petite fille, elle va dire à la femme de Naaman, oui, il y a un prophète qui peut guérir Naaman, quoi, en Israël. Elle va dire ça, en fait, à cette femme qui est sa maîtresse, elle est esclave. elle va essayer d'aider le gars qui l'a rendu esclave. Et ça, c'est quand même dingue. C'est vraiment dingue parce que c'est pas trop ce qu'on ferait de base. Mais on voit qu'elle est pleine de bonté, elle va se soucier de cet homme. Et c'est là que c'est excellent parce qu'au travers du conseil de cette petite fille, en fait, on voit que Dieu, il vient au secours de Naaman. Là, c'est pas écrit Dieu, il y a juste prophète, mais en fait, Dieu, dans l'ombre, il est déjà en train de faire quelque chose. Et là, on voit quelque chose qui va être tout au long de l'histoire de Naaman, hein. En fait, quelque chose qui va poursuivre Naaman, c'est l'amour gratuit de Dieu pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui va être récurrent dans son histoire. Et voilà déjà un premier point de la révélation du Dieu de la Bible qui diffère avec d'autres courants spirituels, c'est que le Dieu de la Bible, il aime gratuitement. Gratuitement. Cette petite fille, elle est l'image de Dieu qui aime Naaman. Même si Naaman, il ne connaît pas Dieu, bah Dieu, lui, il le connaît. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre. Et plus que de le connaître, il se soucie vraiment de lui. Et je vais même aller encore plus loin. Je pense que cette petite fille, en fait, c'est une image de Jésus. Une image prophétique. Elle est prisonnière alors qu'elle est innocente. Et pourtant, elle va faire du bien à son bourreau. Alors, cette histoire nous rappelle bien sûr le Christ. Hein, parce que lui-même, il a cherché à faire du bien à ceux qui le persécutaient. Et comme cette petite fille, bah, Jésus, ce n'était pas un puissant guerrier. Ce n'était pas quelqu'un de fort physiquement. Mais comme elle, sa bonté, elle touchait toutes les personnes qui étaient autour. Même les gens qui le détestaient. Donc le premier défi que Dieu propose à Naaman, c'est d'écouter une petite fille. Encore plus, une petite fille qui est esclave. C'est un vrai défi pour Naaman, il faut vraiment le comprendre. Ça n'a vraiment pas dû être facile pour lui. Lui, c'est le boss, l'un des plus puissants du royaume. Et là, il est rendu à écouter une petite esclave. Son ego, il a dû prendre une sacrée calotte quand même. Mais voilà, il va quand même le faire. Et parfois, Dieu il utilise des moyens qui sont un peu inattendus pour nous parler aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des choses qui ne payent pas de mine pour nous aider, pour nous faire réagir. Et en fait, on a le choix, comme Naaman, on a le choix de suivre ses conseils, qui nous paraissent étonnants, ou de faire comme on veut. En tout cas, ce qui est sûr, selon encore une fois ce passage, c'est que Dieu nous aime. Il aime chacun et chacune d'entre nous. Malgré notre maladie, alors lui c'est la lèpre, malgré notre cœur rongé. Malgré le fait qu'on ne se préoccupe pas de lui, comme Naaman. Ben, je crois que, comme dans cette histoire, lui, il se préoccupe beaucoup plus de nous qu'on ne le pense. Comme il se préoccupe de Naaman. Et ça me fascine. Ça me fascine parce que c'est dingue, en fait. On ne le mérite pas, mais vraiment, il nous cherche. Dieu t'aime qui que tu sois. Il n'est pas raciste, il n'est pas sectaire. Hein. La Bible dit qu'il est amour. Chaque jour, en fait, Dieu nous tend la main. On ne le voit pas, on ne le remarque pas, mais il nous tend la main. Peut-être au travers de choses insignifiantes, qui nous paraissent insignifiantes. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir cette main tendue? Bah, c'est là toute la question. Et à suivre ses conseils, bon, c'est pas évident non plus. Naaman, lui, fait ce choix. Sûrement parce qu'il a dû prier tous ses dieux et puis il se passe rien. Donc il se dit, bon, de toute façon, il faut y aller. Perdu pour perdu, on y va. Hein. Donc il va, voilà la suite un peu de l'histoire. Il va aller voir son roi, il va lui raconter l'histoire de cette petite fille. Il est prêt à suivre ce conseil. Et ici, on a notre première réponse, en fait, à comment à être en relation avec Dieu. La première réponse, déjà, avant tout, c'est en basant notre relation sur son amour. C'est vraiment la première réponse. Et on pourrait presque s'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là, en fait, parce que tout est dit. C'est le défi d'une vie, en fait. Si notre relation avec Dieu, elle n'est pas fondée sur l'amour que Dieu il a pour nous, on a un problème. On a un vrai problème. Si on n'a pas goûté à l'amour que Dieu a pour nous, on a un problème. Notre relation, elle risque d'être fragile. Et bien souvent, je ne sais pas vous, mais on base notre relation avec Dieu sur nous-mêmes. Sur nos actes, sur nos prières, sur nos efforts, sur nos œuvres. On parlera un peu après de ça, mais tout ça, c'est super. Hein, mais ça ne doit pas être le socle de notre foi, en fait. L'amour de Dieu, voilà le socle de notre foi. Voilà notre socle. Il faut vraiment se le dire. Il faut baser notre relation sur son amour. Dieu m'aime, Dieu t'aime, et notre relation, elle doit être pétrie absolument là-dedans. C'est une priorité. C'est tellement rassurant hein, de savoir que le Créateur, il nous aime, il se soucie de nous. Et Naaman, il va expérimenter ça, on va voir, ça va aller encore beaucoup plus loin. Du coup, tout de suite après, ce qu'on a lu là, on voit que Naaman, il va aller voir le roi Thierry, et lui, il va lui donner, pardon, il va donner, enfin, Naaman va aller voir le roi Thierry, il va prendre 300 kilos d'argent, le texte nous dit, hein, 70 kilos d'or, 10 habits de rechange, il prend le pactole. Hein. T'imagines 300 kilos à trimballer sur des chevaux, c'est costaud. Hein. Et il va partir en Israël. Et le roi de Syrie, lui, il va envoyer une lettre directement au roi d'Israël en lui demandant de guérir Naaman. Voilà. Donc là, on est loin, hein, de ce que la petite fille elle avait dit. Elle avait juste dit, va voir un gars. Voilà, eux, les gars, ils ont pris le matos et ils sont partis. Et donc, on voit que voilà, rapidement, Naaman et le roi, ils agissent sûrement comme ils agissaient avec leur divinité de l'époque, historiquement. Ils voulaient quelque chose d'impossible, donc ils vont mettre le pactole. Voilà. Et puis, d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, c'est un peu ça. Hein. Je ne sais pas si vous voulez un truc vraiment balèze, il va falloir cracher au bassinet, quoi. Il va falloir donner de l'argent, vous voyez. C'est ça le truc, un petit peu. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Mais ils vont vite comprendre que la relation avec Dieu, bah, c'est pas ça. C'est pas ça, le Dieu de la Bible, il ne fonctionne pas comme ça. Et quand le roi d'Israël, il va lire la lettre, il va péter un plomb. Il va dire, mais c'est quoi cette lettre? Donc c'est marqué, vas-y, il faut que tu guérisses mon gars, quoi. Souvent, ils étaient en guerre, hein, Israël et la Syrie. Et là, le roi, il dit, regardez, il veut s'embrouiller avec moi, c'est obligé. Parce que moi, je suis pas Dieu, je peux pas guérir ce gars. C'est n'importe quoi, ce courrier, en fait. Lui, il sait qu'on ne marchande pas avec Dieu. Hein. Il connaît Dieu. Hein. Dieu, c'est pas un génie. Tu peux pas l'acheter avec des trésors. Tu peux pas prononcer de formules magiques. Et on a souvent l'impression, comme Naaman et le roi, en fait, hein, que plus on va donner à Dieu, plus on va faire de choses, plus il va nous donner. Alors, bien sûr, hein, quand on applique les principes, la parole de Dieu, bien sûr que Dieu nous aide. Bien sûr que Dieu nous bénit. Il bénit ceux qui le servent. Ça, c'est sûr. Mais je pense que si on voit les choses que comme ça, eh ben, on est un peu à l'envers, en fait. À l'envers, parce que dans cette vision, c'est tout le temps nous qui sommes au centre. J'ai bien agi, donc il va m'arriver ça. J'ai été bon, donc il va m'arriver ça. Et en fait, on est hyper égocentrique, même dans notre foi. Ça fait un peu penser au système de pensée, vous savez, positive. Genre, si tu fais de bonnes choses, il va t'arriver de bonnes choses, et puis vice-versa. Toujours l'homme au centre, en fait. Mais heureusement, la Bible, elle montre que dans la relation avec Dieu, eh bien, ce n'est pas nous qui sommes au centre, en fait, c'est Dieu. Et déjà, ça fait du bien à entendre pour notre orgueil. C'est bon parce que, ouais, on est trop égocentrique. Hein. Il veut nous libérer de nous-mêmes, Dieu. C'est cool, des fois, j'ai envie d'être libre, parfois de moi-même. Je me rends compte de ça. Avec Dieu, ce n'est pas toi qui donnes pour que lui te donne derrière. En fait, c'est l'inverse. C'est Dieu qui te donne. Il nous donne de vivre, de respirer, il nous donne la nature, il donne tellement de choses, il donne d'être créatif, d'être intelligent. Tout ça, c'est ce que Dieu nous donne, c'est tout vient de Dieu, selon la Bible. Et en réalité, en fait, on reçoit de Dieu et on lui donne derrière. Ça, c'est le bon truc, c'est la bonne articulation. Et un jour, le roi David, qu'on a vu hier, il va dire ça, hein, dans une parole que j'aime trop. Il offrait des offrandes de malades. Vraiment, il donnait tout son trésor à Dieu. Et puis, il va dire cette phrase, ce verset, il dit: qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. J'aime trop ce principe, hein. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu, en fait. Dieu donne toujours le premier. Il faut vraiment s'en rappeler aussi, en fait, hein. Et la première chose qu'il nous donne avant tout, c'est son amour. Encore une fois, la Bible dit que alors qu'on était encore dans le ventre de notre mère, Dieu, il nous connaissait, il s'intéressait à nous particulièrement. On a été choisis en quelque sorte. Et ça, c'est incroyable. Voilà, Dieu donne toujours le premier. Et on verra après tout ce qu'il a donné finalement. Et voilà la suite. Donc on en est là. Le roi d'Israël, il a arraché ses vêtements. C'était une coutume. Il devait être torse nu, j'imagine. Voilà la suite de notre passage donc. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fait dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Avana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi, tu seras pur. Donc voilà la suite, on va décrypter un petit peu tout ça. On voit que Élisée, il vient, il dit, bon, ok, envoie-moi ton gars, parce que c'est pour moi qu'il est venu, en fait. C'est pour que je puisse faire quelque chose au nom de Dieu. Naaman, il y va encore une fois avec ses chars, ses trésors, c'est parti, avec toute sa suite. Et puis Élisée, il fait dire par un messager, il sort pas de chez lui, il lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et là, c'en est trop pour Naaman. Bon, il a la lèpre, c'est vrai, mais là, faut pas abuser. Déjà, même pas le prophète, il sort pour le voir. Il s'en fiche de lui. Naaman, c'est quand même un boss, hein, faut pas oublier. Et puis, il lui fait dire d'aller se tremper dans de l'eau. Et l'eau, elle a rien de magique. En vrai, je suis assez d'accord avec lui pour l'instant. Donc, encore une fois, on voit là, qu'est-ce qu'on peut comprendre, interpréter de ça, c'est que Dieu, il est à l'œuvre dans tout ça. Il est en train de changer la façon de voir de Naaman. Il change sa compréhension qu'il a de Dieu, qu'il a de lui-même. En fait, il est en train de se révéler à Naaman, petit à petit, petit à petit. Et je crois que bien souvent, nous aussi, il nous fait cheminer de cette manière. Au début, on ne comprend pas, on dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ce truc? Et au final, quand Dieu finit son travail, eh ben, on y voit plus clair. Dieu, il change notre regard sur les choses. Alors Naaman, il est prêt à partir là. Il est en colère, il s'en va. D'abord, voilà les raisons de sa colère, hein, c'est qu'il s'attendait à avoir un truc spectaculaire. Élisée qui vient, qui invoque le nom de Dieu, il fait un geste et tout, tchac, il y a des éclairs, sa lèpre, elle s'en va. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et là encore, Naaman, vous voyez, il voudrait que Dieu agisse comme il veut. Genre, mais fais comme ça, Dieu, c'est comme ça que ça doit marcher. Et je ne sais pas vous, mais nous aussi, on est un peu comme ça. On dit, mais Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est quoi ce délire et tout. Je suis le premier à faire ça, je le confesse. Et on aimerait dire à Dieu quoi faire. Après tout, on sait comment ça doit marcher, quoi, finalement. Mais combien c'est libérateur de se reposer dans le fait que Dieu, il sait tout, il est sage. Et quand on place cette confiance, c'est un peu comme Estelle elle disait hier, vraiment, on trouve la paix. C'est la foi. Et je crois que l'être humain, il n'est pas fait pour tout contrôler. Il n'est pas fait pour tout contrôler. D'ailleurs, les personnes qui essaient, elles échouent. Tout le temps. Et la première chose que Dieu, il dit à Naaman ici, c'est « Laisse-moi te dire comment faire. Laisse-moi te dire comment faire. » C'est peut-être ce qu'il vous dit à vous aussi, en ce moment. « Laisse-moi te dire comment faire. » Peut-être que tu as un pas de foi à faire avec Dieu en le laissant lui te dire comment faire. Et voilà, ensuite, on voit que les serviteurs de Naaman vont lui parler, ils vont lui dire des paroles qui sont vraiment sages. Il lui dit, si tu avais demandé un truc hyper difficile, je suis sûr que tu l'aurais fait. Alors pourquoi tu ne fais pas un truc simple? Pourquoi tu ne fais pas un truc simple? Et on peut se demander hein, pourquoi il fait ça. Et encore une fois, en fait, il cherche à être le super-héros de son histoire. Il aurait sûrement aimé accomplir un truc comme les 12 travaux d'Hercule. Accomplir des exploits, ça aurait augmenté sa gloire personnelle. Il aurait dit, voilà, donc je suis un boss, je me suis guéri tout seul, j'ai remporté tous les trophées. Et c'est là qu'il y a un vrai problème pour Naaman et un vrai problème pour nous aussi. Naaman, il ne peut pas se sauver lui-même de sa maladie et c'est impossible. Seul un miracle à ce niveau-là peut le guérir. Et c'est pareil pour nous, pour notre cœur. Hein. On le disait tout à l'heure, il est rongé par le mal et on ne peut pas le guérir nous-mêmes, en fait. On a beau faire plein d'exploits dans le monde, être hyper aimant, hyper bon, tout ça c'est bien. On peut être le plus gentil de la terre, mais notre cœur, malheureusement, il est corrompu. Peut-être que si on fait des bons trucs, on se dira, quand même, ça nous rassure, mais au fond, non, ça ne va pas. Je ne crois pas que ça va, en fait. Et c'est la Bible aussi qui nous dit ça. Hein. Elle nous dit que seul Dieu peut purifier nos cœurs et nous sauver. Et c'est la chose la plus difficile à accepter. Si je vous disais maintenant, bon, ok, les gars, vous êtes super, vous pouvez y arriver. Alors, ça serait super simple, on serait là, ouais, on sortirait, on serait chaud. Mais là, non, c'est pas du tout ce que la Bible nous dit, en fait. Naaman préférerait être son propre sauveur. Et ce que Dieu propose à Naaman ici, c'est d'aller se laver dans une rivière. Et ça, même un enfant de 4 ans, de 3 ans, il peut le faire. Et ça doit le blaser vraiment. Mais si Naaman le fait, s'il s'abaisse dans cette rivière, s'il se met dans cette rivière comme Dieu lui dit, Dieu lui promet qu'il va le guérir. Mais pour être guéri, il doit abandonner son ego, se prosterner, avouer qu'il n'est pas son propre sauveur. Ça, c'est vachement difficile. Et cette perspective, elle ne nous fait pas rêver. Hein. Pourtant, c'est vraiment au cœur de cet abaissement-là qu'il y a une délivrance pour nos âmes. Et c'est ça, en fait, le sens de mon message, la réponse à notre question du week-end, comment être en relation avec Dieu, selon la foi chrétienne, eh bien, c'est en se laissant sauver par lui. En se laissant sauver par lui. Tu veux être en relation avec Dieu, il faut que tu te laisses sauver. Sinon, c'est très difficile, tu ne pourras pas avoir une relation. En fait, c'est en s'abaissant, en reconnaissant que notre cœur il est corrompu, qu'on peut avoir cette relation avec Dieu. Mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Ça, c'est dur. C'est pas évident. Lui, normalement, il sait qu'il était malade. Donc, on va voir qu'il va continuer dans cette optique-là. Jésus, un jour, il a dit une phrase que j'aime trop. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » On est heureux, Jésus dit, si on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. Pas de nous-mêmes, non, de Dieu. On est heureux. Est-ce qu'on reconnaît qu'on est pauvre spirituellement? C'est ça notre question. Alors voilà ce qu'il va faire, Naaman. Voilà ce qu'il va faire. La suite dit qu'il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Donc c'est parti, on voit que Naaman, il courbe le dos, il va dans l'eau. Et selon la parole que le prophète l'a dit, il devient pur. Il est guéri. Même s'il ne savait pas ce qui allait se passer, il y est allé. Et c'est ça la foi. La foi, c'est agir selon la parole de Dieu et c'est ce qui nous est proposé à nous aussi. Suivre Dieu, même si d'autres solutions elles paraissent meilleures au final. Dieu il te dit fais-moi confiance, prends le pari, viens avec moi. Et lorsque Naaman il finit de se laver, bing, le miracle se produit, il est guéri. Alors là, à ce moment-là, Naaman il va expérimenter la grâce de Dieu, pour sa vie. Il mérite pas d'être guéri, hein. Il nous a dit que c'est un ennemi d'Israël, que c'est pas quelqu'un qui cherchait Dieu. On nous dit que c'est pas forcément un gars qui était bien au final, qui était particulièrement bon, mais il avait fait sa vie sans Dieu. Moi je dis la logique. Ça aurait été qu'il termine sa vie sans Dieu. Ben voilà, il a fait sa life, puis maintenant, ben, terminé, il meurt, et puis c'est tout. Il a fait sa vie, c'est comme ça. Et pourtant, heureusement, il va être miraculeusement sauvé par Dieu. Dieu, il va poursuivre, en fait, cette histoire, c'est Naaman avec son char, et Dieu qui le poursuit, pour le sauver alors qu'il ne le mérite pas. Juste parce qu'il a compassion de lui. Juste parce qu'il a décidé de le sauver. Dieu, il a décidé de le sauver gratuitement. Et toute l'histoire qu'on a lue, elle nous conduit ici. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu, une faveur imméritée de Dieu envers quelqu'un. Quelqu'un, il mérite une condamnation, et Dieu, il vient, il intervient. Il le sort de sa misère, et il le place à un endroit encore meilleur que ce qu'il était auparavant. Dieu a vraiment de la compassion, et c'est ça qu'il faut savoir pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ça qu'on comprend aussi dans ce passage, avec ce contexte-là. Un homme éloigné de Dieu, Dieu est amoureux de cette personne. Et le principe avec la grâce de Dieu, c'est qu'on ne peut jamais la mériter. Il faut bien s'en rappeler. Comme on l'a vu avec Naaman, hein, on ne peut pas gagner la grâce de Dieu par nos efforts. Parce que des fois, on va dire, ouais, je vais gagner la grâce de Dieu, je vais faire des trucs. Hein, on retombe dans le puzzle, en fait. Non, ce n'est pas ça, en fait. La grâce de Dieu, on ne peut que la recevoir. C'est vraiment un principe absolu. La grâce de Dieu ne peut être que reçue. Pas méritée, reçue, comme un cadeau. Et comme Naaman il l'a reçu, nous aussi on peut la recevoir gratuitement. Et c'est par là que tout commence en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce thème-là, parce que si on veut avoir une relation avec Dieu, on est obligé de passer par là. En fait, c'est sur la base de la grâce que Dieu veut fonder une relation avec toute l'humanité. Je redis cette phrase parce qu'elle est incroyable, c'est vraiment sur la base de la grâce que Dieu veut fonder cette relation avec nous. C'est ce passage qui nous enseigne, c'est la Bible qui nous enseigne. Et voilà pourquoi le Dieu de la Bible est différent de toutes les autres croyances. Parce que beaucoup de spiritualités nous disent qu'on doit être parfait pour être en relation avec Dieu. Moi, j'ai touché à d'autres spiritualités où voilà, il fallait faire d'énormes efforts pour être accepté par Dieu, pour vivre des choses spirituelles. Parfois, Dieu est présenté comme un Dieu distant, dur. Et la Bible, elle nous dit que le Dieu de la Bible a choisi de nous aimer gratuitement, comme un père, c'est l'image du père. Il est même prêt à pardonner toutes nos erreurs, même si on ne le mérite pas. Donc la réponse à ça, comment être en relation avec Dieu, eh bien c'est par la grâce. Si notre relation n'est pas construite sur la grâce de Dieu, il y a de fortes chances pour qu'on se trompe. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce que si on était que sur nos actions, franchement, on serait mal. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, c'est central dans notre lutte contre le péché, parce que si on n'est que centré sur nous, dès qu'on va faire quelque chose de pas bon, on va se dire « Oh là là, je suis plus digne d'aller devant Dieu, laisse tomber, je suis trop nul et tout. » Et ça va nous éloigner de Dieu, en fait. Alors que quand on a goûté à la grâce de Dieu, on sait que, mais, de toute façon, dans tous les cas, t'es pas digne d'aller devant Dieu. Bon, bah, du coup, c'est bon. Dieu, il t'accueille tel que tu es. Le seul moyen d'être proche de lui, c'est par la grâce. Par la grâce, c'est ce terrain-là. Du coup, même quand on est dans l'erreur, hein, on est certain que Dieu veut nous accueillir, et ça, c'est tellement rassurant. On est certain qu'il nous aime, quoi qu'il arrive. Et ça change tout dans notre progression spirituelle. En tant que chrétien, ça change tout, cette vision-là. On n'est plus dans la culpabilité. Et j'aimerais vous mettre en garde contre un piège, en fait, dans lequel on tombe facilement, parce qu'il y a ici aussi des chrétiens de longue date. Et on connaît ce message. On peut se dire, ok, la grâce, c'est bon, moi j'ai commencé par là, super, je suis rentré par là et tout. Maintenant, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais du steak. J'aimerais voir, voilà, c'est quoi ce qu'il y a de plus costaud, comment être encore plus en relation avec Dieu. Eh bien, moi je vais te dire, le steak, ben, c'est ça, en fait. Il n'y a pas plus gros steak que le fait de vivre ta relation avec Dieu dans la grâce, d'être immergé dans cette grâce. C'est ça le plus gros steak. Tout le reste découle de ça. C'est pas juste un commencement, en fait. Hein. Chaque instant, on doit vivre ça dans nos vies. Dans ta relation avec Dieu, tu dois vivre cette grâce que le Christ y t'offre. Chaque instant. Et c'est pas facile, au final. C'est pour ça que c'est vraiment du steak. La fin de l'histoire de Naaman, elle est intéressante parce qu'on voit qu'une fois qu'il a été guéri, il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et puis direct, il veut offrir un cadeau à Élisée. Il dit, voilà, il a sa gratitude et il veut lui offrir ça. Avant, il voulait offrir pour recevoir. Et aujourd'hui, il veut offrir parce qu'il a reçu. Juste parce qu'il est reconnaissant. Vous voyez, le vrai changement, il est là, en fait. C'est pas intéressé, c'est plus intéressé. C'est juste de la reconnaissance. Et la grâce, elle a entre autres cet effet, hein, elle nous pousse à bien agir. Si tu vis par la grâce, en plus, ça va te faire déborder. Tu vas avoir envie de faire des choses, pas pour gagner des trucs, ce serait un peu malsain, mais parce que tu as déjà tout gagné, en fait. T'as déjà l'amour de Dieu. Et ça, c'est ouf. Comme si la grâce déborde de nous. Ouais, c'est de cette grâce que doivent venir nos bonnes actions. Et peut-être que tu vis ta vie de disciple en étant constamment focalisé sur toi et que ça te fait souffrir. Hein. Le pire, c'est que quand on est focalisé sur nous, on a du mal à faire ce qu'on voudrait faire en plus. On cherche en nous les forces, on dit « ouais, je vais y arriver », puis en fait, on se rend compte qu'on est limité. C'est de la souffrance. Dieu nous rappelle aujourd'hui que notre relation, elle doit être vécue en ayant les yeux rivés sur sa grâce, son amour. Et c'est ça qui donne de la force, c'est ça qui donne de la joie, du courage, c'est ça. Ça nous donne de nous dépasser sa grâce envers nous. Alors du coup, voilà, il y a deux principes que j'aimerais vraiment que vous puissiez garder, qui vont ensemble, qui répondent à cette question. Comment être en relation avec Dieu? On l'a vu, c'est en basant notre relation sur son amour et en basant notre relation sur sa grâce. C'est un seul et même truc, en fait. C'est la base que la Bible nous donne avec Dieu. C'est pas, si je te disais qu'il faut prier 4 heures pour être en bonne relation, en fait, non, c'est super, mais il faut que tu sois certain qu'il t'aime. Avant de prier, tu peux te rappeler ça, j'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps, parce que parfois, quand on prie, on dit à la fin à Dieu combien on l'aime, combien il est bon, ça c'est super. Hein. Mais Dieu m'a vraiment montré en fait qu'on devrait plutôt tout le temps dire « Seigneur, tu m'aimes ». Tu vois, se rappeler de ça. « Seigneur, en fait, tu m'aimes ». Et finir en priant en disant « Seigneur, tu m'aimes ». Amen. C'est ça le truc le plus incroyable, en fait. Ça change notre vision de la vie. Dieu, il veut nous libérer et venir à notre secours. Ouais. Et pour terminer, on voit que voilà, Naaman, il a été plongé hein, là-dedans, il a été lavé. C'est pareil pour nous aujourd'hui, pour n'importe quelle personne. C'est possible d'être lavé de ses fautes, quelles que soient nos fautes. Il n'y a rien que Dieu puisse laver, transformer. Il suffit juste de t'abaisser. C'est pas facile. Et de te laisser immerger dans cette rivière de l'amour de Dieu, en fait, pour toi. La Bible, elle nous dit que Jésus, il s'est fait homme et qu'il a tendu sa main vers nous pour nous purifier justement de la lèpre qu'il y a dans notre cœur. Et quand il est monté sur la croix, hein, c'était pour nous immerger dans sa grâce. Il a absorbé le mal. Il a dit, viens, viens, je vais prendre ton mal. Si tu crois en moi, je vais absorber tes fautes. Quand Jésus, en fait, il est enterré, c'est comme s'il enterre nos fautes. Puis quand il est ressuscité, c'est comme s'il nous donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie avec Dieu. Et ça, c'est dingue. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir une nouvelle vie. Moi, j'ai placé ma foi en Jésus il y a quelques années. Ça a changé ma vie. Absolument. Et il n'y a pas un instant où je le regrette. Ça a vraiment tout changé pour moi. Sur la croix, Jésus, il pense à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est ça la grâce qu'il nous offre. Ça, c'est la grâce. Dieu, il vient mourir en personne pour nous, pour des injustes, pour nous rendre justes. Il nous tend la main et c'est ça le message de la Bible. Ouais, pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre juste un petit temps de silence où on peut juste parler avec Dieu dans notre cœur. Si vous n'avez jamais fait ça, hein, vous pouvez parler dans votre tête à Dieu. Vous pouvez juste lui dire peut-être « j'ai besoin de toi ». En fait, c'est suffisant. Ce qui compte, c'est de reconnaître les choses. Ou alors, si vous êtes chrétien, vous pouvez juste dire aussi « ouais, j'aimerais juste vivre ma vie sur la grâce ». Sur le fait que tu m'aimes, j'aimerais me rappeler de ça en fait. On a tellement besoin de ça. Et je sais que Dieu est prêt à agir, voilà, qui que vous soyez, j'en ai la pleine foi pour ça. Comme pour Naaman en fait, il vous attend. Ouais, on peut prendre quelques minutes peut-être de réflexion. Nathan, si tu veux faire un petit peu de guitare, ouais, merci. Et ouais, ouvrez vos cœurs à Dieu si vous en avez le désir ou vous pouvez méditer à ce qu'on vient de dire. Terminer en priant par rapport à tout ce qu'on a dit. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous aimes tellement. C'est la base de notre foi. Seigneur, qu'est-ce qu'on ne mérite pas en fait. Tant d'amour, on ne mérite pas de t'avoir. Seigneur, tu nous suis comme tu as suivi Naaman, qui qu'on soit, tu viens nous chercher, tu viens nous parler. Il y a tellement de fois, Seigneur, où en fait on ne voit pas ta main tendue, tellement de fois où on croit que c'est du hasard. Moi, je crois que c'est toi en fait qui viens pour nous tendre la main, pour nous sauver. Pardonne nos cœurs si durs, si lents à s'abaisser. On voudrait tellement être des super-héros alors que c'est toi qui es le super-héros, Jésus. Te glorifier pour ça, viens vraiment nous aider, viens tendre la main à ceux qui te le demandent, Seigneur Jésus, viens changer leur vie. Comme tu as changé la nôtre, Seigneur, c'est toi le Dieu de gloire. On te remercie, on a tellement besoin de toi, on est tellement corrompus dans nos cœurs, tellement, Seigneur. Aide-nous aussi à nous rappeler chaque jour que tu nous aimes, tu nous as aimés le premier. À pas regarder nos prières, nos actions, mais à toujours nous rappeler que c'est toi qui es devant. Toi qui nous aimes, quand on était dans le ventre de notre mère, tu nous cherchais déjà. Tu nous connaissais. Seigneur, tu connaissais le nombre de jours de nos vies. Et on veut te bénir pour ça, Seigneur éternel, que toute la gloire te soit rendue. Et mon Dieu, merci d'être ce Dieu aimant. Vraiment. Seigneur, merci. Et tu nous aimes, Seigneur. Amen. Oui. Pour terminer, je pensais à un truc. Vous savez, des fois, franchement, pour être honnête avec vous, il y a plein de fois où je fais des trucs pour Dieu et vraiment j'ai peur. C'est pas forcément mon caractère, même de parler aujourd'hui. C'est pas, on dirait que c'est naturel, mais en fait, j'ai peur. J'ai peur au fond de mon cœur. C'est pas facile. Mais en fait, ce qui me pousse, et je pensais à ça en priant, en fait, c'est de savoir que Dieu il m'aime. C'est vrai que c'est tellement important de se rappeler de ça. Ça nous donne des ailes, vraiment, pour faire des choses, pour passer, comme Paul disait hier, à l'action. Ouais, c'est sa grâce. Vraiment, ça change tout. Moi, je trouve, en tout cas. Je sais pas pour vous. Du coup, on va avoir un temps de questions-réponses ensemble. Vous pouvez faire des petits groupes. Vous avez vu ces petites étoiles? C'est incroyable. Donc, on va prendre un temps de questions-réponses. Donc, voilà, ensemble, vous pouvez vous tourner, vous retourner, discuter de tout ça. Et puis...